Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Cadence of Hyrule, développé par Brace Yourself Games et distribué sur Nintendo Switch à partir de juin 2019. Il sera notamment interrogé sous l'angle du mélange des genres et de la sélection des traits signifiants de ses deux inspirations premières, Crypt of the Necrodancer d'un côté, The Legend of Zelda de l'autre.
Première partie, présentation et problématique.
Il est des œuvres que l'on aime, parfois inconditionnellement, alors que nous savons pertinemment bien qu'on ne les comprendra jamais totalement. Il y a des films d'auteurs qui nous parlent, et dont on peine pourtant à saisir parfaitement le symbolisme complexe. Des musiques savantes, que l'on serait incapable d'analyser. Même des jeux vidéo auxquels on revient toujours, même si on se sait médiocre. Personnellement, et ne serait-ce, les jeux de stratégie tels SimCity ou Civilization me fascinent. Je les achète tous. J'y joue des centaines d'heures. Et à la fin, je me sens pourtant aussi débutant qu'au commencement. Cela ne m'empêche cependant point d'y revenir et de m'y amuser, preuve qu'il n'est point besoin de comprendre pour plaire. Parmi les jeux qui récemment produisirent en moi cet effet, il faut absolument citer Crypt of the Necrodancer. Ce dungeon crawler indépendant, sorti en 2015, propose d'explorer des souterrains générés aléatoirement en imposant une contrainte agréable, celle de progresser exclusivement au rythme de la musique. Toutes les commandes entrée, qu'il s'agisse de se déplacer, d'attaquer, de creuser la terre meuble, doivent correspondre aux pulsations, de plus en plus rapides, de plus en plus complexes, de la musique du donjon. Se décaler, c'est échouer à accomplir l'action, et les ennemis n'en profiter, quand bien même seraient-ils, eux aussi, soumis aux mêmes règles. Cependant, ils n'échouent jamais. L'originalité était notable, le jeu combinant agréablement jeu de rythme et jeu d'exploration, le tout dans un décor aléatoirisé du meilleur effet. Le succès critique comme populaire. Ce fut cependant une surprise particulière d'apprendre, lors d'une émission annonçant les futurs jeux Nintendo, que les développeurs avaient reçu l'autorisation de reproduire leur copie avec les héros et héroïnes d'une de leurs licences les plus populaires, The Legend of Zelda. Le jeu, baptisé alors Cadence of Hyrule, gardait son principe fondateur, mais proposait à présent de diriger ou Link, ou Zelda, dans un monde d'Hyrule en danger, et soumis à présent au diktat de la musique rythmée. Le jeu, qui s'inspirera alors notablement du fait de la vue surplombante de Crypt of the Necrodancer, de The Legend of Zelda premier du nom, et de A Link to the Past, a alors conservé son principe fondateur et lui a inclus objets, ennemis, musique. Cela lui donne ce goût étrange de l'épisode dérivé ou du spin-off, sans que l'on ne sache précisément s'il s'agit d'une dérivation de la crypte ou de la légende. C'est précisément cet endroit-ci que nous pouvons interroger, notamment au regard d'autres épisodes alternatifs de la saga Zelda qui, du haut de ses 30 ans passés, compte dans sa collection quelques jeux annexes qui font évoluer le gameplay traditionnellement attendu. On peut penser à Crossbow Training sur Wii, à tout nouveau tout beau Tingle sur DS, ou, dans une moindre mesure, Four Swords Adventures ou Triforce Heroes qui, bien que reprenant l'architecture générale d'un jeu Zelda, se départent notablement et proposent des jeux lorgnant d'autres types d'aventures. Il y a alors quelque chose du mélange qu'il convient d'observer, qui touche tant la façon dont nous déterminons ces jeux seuils que les séries en elles-mêmes, et la façon dont nous organisons les suites. Nous poserons alors la problématique de cette émission comme suit. De quelle série le jeu Cadence of Hyrule est-il une variation?
Deuxième partie, SEM et prototype.
La question de la catégorisation, qui dans un genre, qui dans une série, a déjà été posée plusieurs fois dans notre émission, notamment dans notre 23e épisode consacré à VVVVV, ou dans notre 39e épisode consacré à Undertale. Nous y renvoyons alors en préalable, notamment concernant la définition du concept d'horizon d'attente que nous reprendrons et élargirons ici cependant. Nous la compléterons effectivement par une réflexion sur le concept du prototype et la notion de SEM qui nous sera utile ici. Nous rappelons donc que la notion de genre, en jeu vidéo comme ailleurs, qu'il s'agisse d'un jeu de plateforme, d'action, de réflexion, se fonde sur un horizon d'attente, construit généralement a contrario de l'ensemble du champ générique contemporain à un jeu en particulier. Il s'agit d'une série de traits, primaires comme secondaires, qui définissent un genre pour le public et qui déterminent un horizon spécifique. Nous irons un peu plus loin en considérant cette fois-ci la façon dont telle et telle série de jeux partageant généralement le même nom se positionne au regard de ses attentes génériques. Ainsi, considérons le genre du jeu de plateforme que nous avions défini jadis. Si l'horizon d'attente et le genre permettent d'établir que des jeux aussi divers que Super Mario Bros., Super Mario Sunshine, Sonic & Knuckles, Mega Man X, Klonoa font partie de la seule et même famille, une comparaison par trop systématique entre les membres de cet ensemble général, au sens premier du terme, soit qui appartient au même genre, fait émerger des différences notables et puissantes, tant et si bien que l'on peinerait à présenter Super Mario Bros. Et Klonoa, par exemple, comme relevant du même genre, et ce malgré l'étiquette, de la même façon qu'il nous sera toujours gênant de mettre dans un même ensemble une autruche et un rouge-gorge, alors qu'ils sont tous deux des oiseaux. C'est que l'horizon d'attente est souvent insuffisant pour opérer une découpe parthénomique du monde nous entourant. Si l'on reprend notre dernier exemple aviaire, on dira, dans l'horizon d'attente de l'oiseau, qu'il doit avoir des plumes, un bec ou des serres, pondre des œufs, et ainsi de suite. On notera que le fait de voler, s'il est commun à une grande part de l'espèce des oiseaux, est une condition ni nécessaire, ni suffisante, puisque, à l'instar des autruches, certains oiseaux ne volent pas. Et à contrario, il est des mammifères, des insectes, des poissons, voire, qui volent. Pourtant, et malgré ceci, l'on sera néanmoins gêné de ne pas inclure cet élément dans la définition. Cela, cependant, ne déterminera pas le genre de l'oiseau, mais son prototype. L'on pourrait dire, en allant rapidement, que le prototype est au genre ce que le discours est à la langue, c'est-à-dire une actualisation et une réalisation, parfois détournée, parfois plus étroite ou plus grande, d'un concept abstrait. Le genre se définit par contraste. Le prototype se définit en et par lui-même. Ainsi, un oiseau d'être défini par ce qui n'est pas un oiseau, et non pas par ses propriétés intrinsèques. Mais un prototype d'être défini pour ce qu'il est. Un rouge-gorge est ainsi senti, dans notre culture occidentale tout du moins, comme faisant plus oiseau qu'une autruche ou un manchot, et ce bien qu'on sache intimement le contraire. Dans le cadre du jeu vidéo, nous retrouvons quelque chose de cet ordre, et ce à différents niveaux, selon que l'on considère tel ou tel jeu, telle ou telle série, comme un genre ou un prototype. Selon la culture et les affinités de chacun, le genre du RPG sera tantôt mieux exprimé par Diablo, par Fallout ou par Final Fantasy, certains paraissant plus RPG que d'autres. Et selon le prototype choisi ici, on considérera par exemple que Diablo 2 fait plus Diablo que Diablo 3, ou que Final Fantasy 6 fait plus Final Fantasy que Final Fantasy 13. Ces considérations, on le notera, dépendent de traits subjectifs et moins d'éléments concrets, ne serait-ce que le nom même du jeu. Cet élément-ci agite que la communauté des joueurs qui, régulièrement, se demande si tel ou tel jeu, sous-titré comme tel, est un représentant légitime, c'est-à-dire prototypique de la série à laquelle les développeurs le raccrochent. Personnellement, je peux dire que je ne considère point Fallout 4 comme un vrai Fallout, puisqu'il lui manque le système de karma que je juge prototypique à la série, alors que cela n'est pas absolument un trait générique. Mais de l'autre, je considère Super Mario Sunshine comme un vrai Mario 3D, et ce nonobstant l'inclusion du jetpack qui rend plus facile certaines phases de plateforme, tandis que ce trait est éliminatoire pour d'autres joueurs. La sélection du prototype, ainsi, se fait souvent d'une façon nébuleuse, individuelle, elle peut toujours évoluer avec le temps et dépend de la culture dans laquelle sa stabilisation se fait. De la même façon que pour un habitant de la Grèce antique, la mer était couleur de vin alors qu'elle serait bleue aujourd'hui pour nous, et l'eau, bien sûr, a toujours été incolore, un jeu de plateforme avait une définition toute particulière pour un joueur des années 70 et différente de celle d'un joueur des années 2000, quand bien même y aurait-il des points de rencontre. Quelque endroit où le se situe cependant, cette définition se fonde toujours sur une sélection, mais sur une sélection de ce que l'on appellera ici non plus des signes, mais des sèmes. Au contraire du signe, qui ne prend de la valeur que mise en relation avec d'autres signes, ce qui explique que l'on peut les retrouver dans différents réseaux avec des interprétations distinctes, le sème a une valeur en et par lui-même, et est généralement mono-symbolique. C'est ainsi que fonctionne, par exemple, la métaphore, qui est un transfert de sème d'un objet à l'autre, tout en gardant la même signification. Dire que la justice est aveugle, par exemple, c'est prendre l'idée qu'un ou qu'une aveugle ne voit rien et l'appliquer à un concept abstrait. C'est donc bien un phénomène distinct, mettons, de la couleur rouge, qui peut autant symboliser le danger ou la vie par l'intermédiaire du sang, selon l'endroit où nous nous trouvons représentés, une scène de guerre ou une transplantation médicale. Partant, que seraient les sèmes du jeu vidéo et, éventuellement, quelles sont leurs relations avec nos signes?
Troisième partie, le dedans et le dehors.
Le sème est donc le squelette du prototype. Et bien que mouvant d'époque en époque, de culture en culture, comme nous le notions, il permet de définir en plein, et non en creux, ce qu'est un jeu vidéo et ce qu'est une série de jeux vidéo. Il nous suffit alors d'inventorier particulièrement les sèmes définitoires et de The Legend of Zelda et de Crypt of the Necrodancer, enfin de Cadence of Hyrule, pour répondre à notre problématique. L'ennui, évident pour qui réfléchit un instant, c'est que s'il est plutôt facile de faire cette opération pour Crypt of the Necrodancer, dans la mesure où, puisqu'il est le seul représentant de sa série, ce sera l'intégralité de ses sèmes qu'il nous faut retenir ici, autant la chose était plus compliquée pour The Legend of Zelda, qui compte, nous le notions, une poignée d'épisodes alternatifs, à l'instar de Crossbow Training ou de Hyrule Warriors. Les velléitaires trancheront le nœud gordien. Il suffirait simplement de les mettre de côté. Admettons, et nous retenons alors que les épisodes que l'on considère souvent faire partie de la série canonique, par exemple tels ceux que nous trouvons sur Wikipédia. La liste est assez longue, nous ne la donnerons pas ici et laissons les curieux la considérer. Dans l'ensemble cependant, rien de surprenant dans ce premier corpus. Faisons alors l'inventaire des sèmes qui traverseraient la saga, et rapidement, nous voyons des difficultés émerger. Il y a dans ces jeux aucun sème commun d'univers, puisque tous ne se déroulent point en Hyrule. De gameplay, certains étant en vue de côté, en deux dimensions ou en trois. De style, certains épisodes sont sombres, d'autres plus chamarrés. De personnages, certains oublient Ganon, Zelda, seul Link demeure, mais les sachants diront qu'il ne s'agit pas toujours du même personnage et même, il ne porte pas toujours sa tunique verte, Breath of the Wild la réservant qu'aux plus patients des joueurs. D'objets d'inventaire, ou que sais-je. Bref, difficile de trouver ici un seul sème qui traverserait tous les jeux de ce corpus. Ne retenir que le seul de pertinent ici, soit que l'on joue toujours un avatar de Link, ne permet pas d'isoler des jeux spin-off qui n'ont guère que cela en commun avec le jeu principal. N'importe quel joueur, n'importe quelle joueuse, Pourtant, saura intuitivement que quelque chose relie les jeux Zelda de Hasegawa canoniques au-delà du personnage. Mais est-il cependant possible de le déterminer sémantiquement? Car je n'irai pas contre l'opinion populaire et me range à la vox populi. Il est quelque chose que nous trouvons continuellement dans les jeux Zelda, je le concède même pour les épisodes que je juge personnellement comme des plus médiocres, à l'instar de Skyward Sword, et qui n'existe pourtant pas dans les épisodes alternatifs, quand bien même serait-il supervisé par les équipes de Nintendo ou par Miyamoto lui-même. C'est là, cependant, que nous touchons une autre propriété des SEM, fondamentale dans leur distinction avec les signes. Un SEM peut effectivement être implicite au regard du signe, puisque ces derniers ne se saisissent qu'en relation avec d'autres et non pas en eux-mêmes. Il y a, partant, une idée de détermination mutuelle absente des SEM qui peuvent alors être simplement perçus plutôt que définis. C'est, par ailleurs, la raison pour laquelle les définitions de dictionnaire s'écartent parfois les unes des autres, l'inventaire sémantique étant plus difficile qu'il n'y paraît, et le jeu vidéo n'est pas isolé de ses préoccupations. Il a cependant un avantage, dans la mesure où il se construit en gestes et en intentions, et que nous avons des objets concrets à comparer, et non pas des concepts abstraits, plus difficiles à manipuler. Nous nous retrouverons cependant face à une sorte de problème, ou de gêne fondamental. Car ce qui nous permettrait alors de dire que Cadence of Hyrule est soit un jeu appartenant à la série des Necrodancer, soit à la série des Zelda, ce serait une impression laissée à la lecture, ce qui nous ferait retomber intuitivement sur un horizon d'attente générique, certes plus limité à telle ou telle saga, mais identique à ce que nous avions auparavant dans nos grandes réflexions génériques. Différence étant, cette réflexion est plus ciblée, moins élargie, et elle nous permet de définir ces éléments en eux-mêmes et non relationnellement. Partant, il ne s'agira pas ici de chercher les éléments qui se comportent identiquement dans Cadence of Hyrule et The Legend of Zelda, ou dans Crypt of the Necrodancer, mais les éléments qui, sémantiquement, ont une concordance. Cela nous permet, par exemple, d'inclure les bombes dans notre modèle global. Bien que présentes dans Crypt of the Necrodancer et dans The Legend of Zelda, elles sont davantage iconiques et sémantiquement liées à Zelda qu'à Necrodancer. Pourtant, leur fonctionnement dans Cadence of Hyrule est plus proche de Necrodancer que de Zelda. Ainsi, l'on dira que les bombes sont davantage un SEM de Zelda qu'un SEM de Crypt of the Necrodancer, alors qu'elles seront considérées comme des signes fonctionnels de l'une et l'autre série, puisqu'en relation avec d'autres signes de celle-ci.
Quatrième partie, de la culture du jeu vidéo.
Partant, l'on peut ainsi établir une liste de SEM et répondre aisément à notre problématique, mais avant même de progresser, une remarque émergera nécessairement. Que ce qui nous permet d'affirmer, comme nous le faisions à l'instant, que les bombes font partie des SEM de The Legend of Zelda et non pas de Crypt of the Necrodancer. C'est là que se situe, une fois encore, cette idée de sélection des traits pertinents dont nous parlions précédemment pour les oiseaux, et le vol ou les plumes, et l'importance de la dimension culturelle dans notre relation aux médias en général et aux jeux vidéo en particulier. Il est néanmoins difficile de déterminer culturellement le jeu vidéo, non car il ne posséderait aucune culture, mais bien parce qu'il est difficile de déterminer, ne serait-ce, ce qu'est la culture. Il y a, dans la définition de la culture, une idée de tradition et de génération, de reproduction par le temps. L'emploi abstrait sur lequel nous raisonnons n'est jamais qu'un sens métonymique, dérivé de la culture des champs, soit de la façon dont l'être humain, certains animaux le cas échéant, peuvent faire se reproduire des plantes en respectant certaines routines et en évitant d'autres. La culture, au sens abstrait du terme, n'est pas si éloignée de cette première idée. Partant, ce qui nous permet effectivement de dire que les bombes est un SEM de Zelda et non de Crypt of the Necrodancer, c'est une question d'hérédité de préséance. Zelda utilise les bombes, bien qu'irrégulièrement et différemment, depuis presque 30 ans. Ce n'est pas alors qu'un jeu les utilise mieux que l'autre, ou de façon plus compliquée, ou dans un réseau de signes plus complexe, mais tout simplement parce que Zelda, dans son modèle, fut le premier à les employer et qu'il a une longue série, une longue expertise derrière lui, cela seul et rien de plus. Si les deux jeux étaient sortis à la même époque, comme dans un vide médiatique, sans jamais rien influencer derrière eux, l'on aurait pu volontiers considérer l'un puis l'autre, faire l'inventaire des réseaux de SEM, déterminer duquel Cadence of Hyrule était la fille, de laquelle The Legend of Zelda était le fils. Mais en l'état de la réalité que nous connaissons, l'on ne peut faire autrement que de considérer Cadence of Hyrule comme un spin-off de The Legend of Zelda, et non pas The Crypt of the Necrodancer. Cette filiation directionnelle a, néanmoins, quelques avantages certains dans l'analyse et la réception de l'œuvre. Car ce faisant, l'on a comme un modèle auquel comparer la chose et même, cela peut éventuellement excuser ou recontextualiser certains choix de gameplay qui, pris indépendamment de cette culture manifeste, auraient pu être reprochés au jeu, mais deviennent charmants, voire malins. Il en va ainsi de la rigidité de la carte extérieure et du déplacement par écran, qui facilite ou contraint l'exploration. Du choix des boss et des ennemis, qui n'exploitent pas toutes les possibilités du principe de jeu, à l'instar de Crypt of the Necrodancer qui avait davantage de niveaux pour explorer ses potentialités. De la difficulté brutalement élevée du dernier donjon, au regard du reste. Toutes ces choses-là, prises indépendamment, auraient empâté durablement l'expérience, et sans doute sont-elles des points de dissension. Mais ici, elles se comprennent comme des relectures de choix du tout premier The Legend of Zelda, à l'inspiration palpable. Il ne s'agit donc pas uniquement d'une perspective critique, comme un bouclier que l'on pourrait brandir à l'encontre de chaque défaut et qui reporterait en quelque sorte les errances présentes sur les fautes passées, mais aussi de toute une élaboration du propos et une resémantisation de ce qui est accompli dans une œuvre particulière. En jeu vidéo comme en littérature ou au cinéma, se revendiquer explicitement d'un modèle passé n'est pas un blanc-seing, c'est proposer une clé d'interprétation des sens de l'œuvre. Une étude sémiotique aurait pu, ainsi, faire des parallèles entre Cadence of Hyrule et Hylaid, les deux jeux étant finalement proches dans leur réseau de signes, du moins jusqu'à un certain point. Mais une étude sémantique, quant à elle, ne peut que choisir que The Legend of Zelda comme modèle d'ancrage. Ce modèle est, enfin, un modèle de classement particulièrement fort, mais qui, théorie du prototype oblige, peut être protéiforme. Il en va ainsi du baptême successif de certains jeux lors de leur exportation hors de leur territoire de naissance. Appelé Super Mario Yoshi's Island au Japon, c'est capitalisé exclusivement sur un univers pour ce jeu. Appelé ce dernier Super Mario World 2 Yoshi's Island aux États-Unis et en Europe, c'est mettre en avant le statut de suite ou de préquel. Enfin, le sous-titré une fois dernière Super Mario Advance 3 lors de sa réédition, c'est le placer davantage dans une continuité thématique, plus que chronologique, des jeux de plateforme Super Mario. C'est redonner du sens aux jeux, à leur choix de gameplay, à leur univers. C'est proposer à chaque fois une nouvelle vision culturelle de leur identité. C'est alors dans cette direction que nous aimerions terminer notre réflexion en évoquant cet aspect qui, certes, se développe progressivement, mais demeure à notre goût trop silencieux. Si les discussions sur le statut médiatique du jeu vidéo ont abouti positivement, et si la question artistique, tarte à la crème du genre, revient de loin en loin, mais avance avec intelligence, la question culturelle est encore aux abonnés absents. À la fin de notre 52e émission, nous évoquions le problème épineux que pose la muséographie du jeu vidéo et le choix que les archivistes devront faire de LA version de l'œuvre qui sera offerte au public. Plus largement, il se pose aussi la question de la façon dont le jeu vidéo peut aujourd'hui infuser ses codes, ses sèmes, ses prototypes dans le milieu culturel au sens large du terme. Si on songe souvent, par exemple, à l'influence du cinéma dans le jeu vidéo, la réciproque est peu considérée et pourtant, des films comme Matrix ou Kill Bill ont des fonds vidéoludiques explicites et qui, préséance culturelle oblige, donnent des clés de lecture complémentaires à toutes les autres. Pour cela, cependant, il faut que le jeu vidéo s'érige comme objet culturel à part entière et qu'il stabilise ses bornes et ses limites. Il lui faut affirmer qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Et il lui faut répondre à cette question univoquement, quitte à ultérieurement pousser plus loin ses frontières. Ce n'est qu'en construisant un prototype et en délimitant ses sèmes que le jeu vidéo terminera son intégration dans les esprits humains. Il manque cependant encore une théorie du tout. Plus que jamais pourtant, elle est nécessaire. Et plus que jamais, je l'attends absolument.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.